Les matins de France Culture.
Et le billet politique ce matin en direct de Bruxelles. Bonjour Frédéric Seyss. Le scrutin européen, c'est dans un peu plus de 3 semaines maintenant. Et pour l'instant, l'on vit une campagne que vous qualifiez de décalée.
Bonjour Florian, oui c'est vrai, des élections qui approchent et pourtant on a l'impression que cette campagne a à peine commencé. Qui peut dire qu'il a en tête les enjeux? Qui peut prétendre qu'il connaît les principales propositions de tous les candidats? Pas grand monde. Alors sans doute, nous autres journalistes avons-nous une part de responsabilité? Peut-être manquons-nous parfois de pédagogie ou de profondeur? Mais enfin, il faut dire que les principaux partis ne nous aident pas vraiment. Certains n'ont même pas encore dévoilé leur programme. C'est le cas par exemple de la liste de La République En Marche et de ses alliés. Le précieux document ne sera offert à la sagacité des électeurs que le 9 mai, 17 jours seulement avant le vote. Et la liste macroniste n'est pas seule dans ce cas. Du côté du Parti Socialiste Place Publique, ce ne sera pas avant le 6 mai. Alors ne globalisons pas à cette heure. Certaines listes comme celle de Yannick Jadot, de Manon Aubry ou de François-Xavier Bellamy proposent des visions détaillées, qu'on soit d'accord ou pas avec elles. Mais plus largement, les candidats nous parlent très peu du Parlement européen et beaucoup de leurs obsessions nationales. Certains nous disent même que le scrutin doit être un référendum anti-Macron, comme si l'on désignait non pas les députés européens, mais le nouveau président français. L'Europe est en général la grande absente des débats de la présidentielle, mais visiblement, il faut aussi qu'elle soit effacée des débats des élections européennes, comme si la politique nationale primait surtout. Bien sûr, le phénomène n'est pas nouveau, il est aussi vieux que les élections européennes. Tenez, en 1979, les candidats tête de liste s'appelaient Jacques Chirac, Georges Marchais, Simone Veil, François Mitterrand, et ce dernier, lors d'un débat télévisé, s'en prenait à la presse qui l'accusait de rouler pour le président Giscard d'Estaing.
C'est une véritable matraquage par le fait du président de la République, du Premier ministre, des membres du gouvernement, et tout cela par le moyen des radios et des télévisions qui sont sans doute contraintes d'exécuter.
Voilà, les considérations nationales ne sont pas très loin. Cela dit, à l'époque, le Parlement européen était une institution symbolique, pas loin d'une coquille vide, et ses grandes figures y étaient élues et pouvaient cumuler avec leurs fonctions nationales. Depuis, l'Assemblée de Strasbourg et de Bruxelles a vu ses pouvoirs augmenter, mais rien à faire, les candidats aux européennes font souvent campagne sur des thèmes qui n'ont rien à voir avec leurs futures prérogatives s'ils sont élus. Il faut augmenter le SMIC en France, entend-on, fort bien, mais depuis quand est-ce le rôle d'un eurodéputé? Attention à ceux qui prennent leurs désirs nationaux pour des réalités européennes, car le Parlement européen n'a rien à voir dans son fonctionnement avec l'Assemblée française. Il n'y a pas d'un côté une majorité, de l'autre une opposition. Tous les textes cheminent par un fragile compromis et des alliances de circonstances. Il n'y a donc pas une majorité, mais 100, mais 200 majorités différentes selon les thèmes et selon les contextes. Alors voici le risque qu'après avoir mené une campagne franco-française, les heureux élus débarquent dans un autre monde, le Parlement européen, et soient victimes en quelque sorte d'un jet lag culturel, d'un déphasage démocratique. Le risque donc que ces nouveaux venus passent le plus clair de leur temps au cours des premiers mois de leur mandat à faire l'apprentissage de la chose européenne qu'ils auront soigneusement évité durant toute cette campagne. Cette campagne décalée.
Merci beaucoup Frédéric Seyss pour ce billet politique qu'on peut retrouver bien sûr sur le site de France Culture.